Bonjour, c'est l'atelier des médias.
Bonjour monsieur, je m'appelle Guillaume Camara et je suis journaliste indépendant. Alors, je me suis inscrit à cette émission participative qui est l'atelier des médias parce que, comme disait Monsieur Drouillon, qui l'académicien qui vient de décéder récemment, la francophonie c'est quelque chose qu'on a en partage. Et dans cette émission participative, à la fois, j'ai cette grande chance de communiquer avec les gens français, mais aussi de participer à cette grande révolution qui s'appelle la révolution numérique. Et puis voilà, donc deux facteurs, à la fois francophonie, mais aussi ma passion pour l'Internet et puis pour le monde numérique en général. Voilà, en gros, c'est ça.
Merci Guillaume Camara et bonne journée à vous à Reims.
Merci beaucoup, au revoir.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Philippe Couve, Simon De Creuse.
Et vous.
Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias nouvelle version. Nous sommes ensemble chaque samedi pendant une heure et demie.
atelier@rfi.fr.
Au Cambodge, un site d'information indépendant tente de se faire une place dans le paysage médiatique. Notre envoyé spécial Stéphane Lagarde s'est rendu sur place. Son reportage et ses réponses à vos questions dans 20 minutes. Rendez-vous ensuite avec les observateurs de France 24. Gros plan aujourd'hui sur l'utilisation des médias et des nouveaux médias dans la campagne électorale au Liban. Le blog peut-il être un outil pédagogique? Élément de réponse dans Mondoblog, c'est dans une heure. Et puis nous verrons avec Francis Pisani qu'une partie du web a été contaminée par la grippe porcine. Conseil pour s'y retrouver dans le flot d'informations qui nous submerge sur ce sujet. Ce sera en toute fin d'émission. Dans l'atelier des médias, on parle des médias que vous consultez, de ce que vous fabriquez. L'atelier des médias, c'est une conversation à laquelle vous pouvez participer en nous rejoignant sur le web.
http://atelier.rfi.fr.
Dans 10 minutes, une question simple. La presse sur Internet peut-elle être rentable? Élément de réponse avec un jeune étudiant, membre de l'atelier des médias, qui s'est penché sur la question et qui est en studio avec nous.
Vos commentaires, vos questions sur le site de l'Atelier des médias.
Avant cela, on commence avec vous, Franck Duret, bonjour.
Bonjour, ou bonsoir, ça dépend de l'heure qu'il est, c'est pas l'habitude d'être sur RFI.
Vous n'êtes pas trop dépaysé
dans
ici, dans une émission dans laquelle les internautes et les auditeurs peuvent participer, puisque c'est ce que vous faites également.
Exactement, oui, sur une radio régionale qui s'appelle France Bleu Île-de-France, une des 41 radios du réseau France Bleu qui émet sur toute la France, du nord au sud, de Nice à Lille, en passant par Guéret, le centre de la France, quasi.
Alors, on reparle ensemble dans quelques minutes, mais je suis venu vous voir travailler cette semaine.
Exact.
Un grand reportage, puisque j'ai dû descendre deux étages à l'intérieur de la maison de la radio.
Un étage. Vous êtes au troisième, on est au second.
Le studio ici est au troisième et mon bureau est au quatrième.
Ah,
pour être tout à fait précis.
C'est donc un grand reporter.
À 18h30 précise, tous les soirs de la semaine, vous prenez l'antenne pendant 2h30 et vous êtes dans le studio pendant qu'Adrien Huth attend les appels des auditeurs de l'autre côté de la vitre.
France Bleu Île-de-France, ne quittez pas.
Donc on est vraiment prudent, ça roule comment aux alentours?
Ah bah c'est une émission en fait sur la mutualisation d'informations. Alors mutualisation c'est un bien grand mot, c'est en fait on est une radio de service public, donc on rend service au public, et comme tout le monde a besoin de sa voiture ou de prendre les transports en commun pour aller de la maison au travail et du travail à la maison, on donne des infos aux gens tous les quarts d'heure de façon vraiment, vraiment claire et précise. Et en plus, on leur demande de nous appeler pour nous donner leurs infos, pour nous poser des questions et que les auditeurs et les conducteurs leur donnent les réponses si nous n'avons pas nous-mêmes la réponse. On a eu ce soir, par exemple, Morgane qui voulait savoir quel était l'état de la 14 entre Neuilly et Orgeval. Et tout de suite après, on a un chauffeur routier qui nous appelait. Ils se connaissent pas. Ils sont pas faits pour se croiser parce qu'elle est hôtesse d'accueil dans une boîte de production télé. Lui, il est routier entre le nord et le sud de la France. Ils se sont appelés, boum, connexion. Et on a le service qui est rendu.
France Bleu Île-de-France, ne quittez pas. France Bleu Île-de-France, bonsoir. Extérieur au niveau de Maison Alfort, c'est ça? Ok. Eh bien, je vous rappelle tout de suite. Donc là, on avait une première info d'un véhicule en feu sur la bande d'arrêt d'urgence sur la 86 extérieure au niveau de Maison Alfort. Donc j'envoie l'information à Franck par ce logiciel qui reçoit en studio. Et là, je rappelle la personne qui vient de m'appeler qui a l'information qui est à l'endroit du véhicule en feu. Et donc, il va pouvoir apporter quelques précisions. Oui, Ludovic, rebonsoir, c'est Adrien de France Bleu Île-de-France. Donc je vais vous faire passer à l'antenne avec Franck. Je vous mets en attente et il va vous prendre à l'antenne, voilà. L'important dans l'absolu, c'est qu'on ait le plus d'informations possible à faire partager. Après, c'est important pour les auditeurs qui appellent de savoir qu'ils sont considérés, que leur information, c'est pas quelque chose qu'ils jettent comme ça à tout le monde, et que c'est eux qui apportent quelque chose à France Bleu et donc qui participent un peu à l'émission.
France Bleu Île-de-France, bonsoir.
Allô.
France Bleu Île-de-France, 18h30, 21h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est encore une fois un plaisir que de monter à bord de votre véhicule, de votre automobile, camion, moto peut-être. 0810 107 100, c'est votre numéro de téléphone si vous avez envie de nous donner quelques infos pour le moment. Ludovic, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Alors, ce véhicule en feu sur la 86, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Sur la 86, en direction de la 4, au niveau de la sortie Maison Alfort. Il y a une 406 grise. La personne est à l'extérieur. Quand je suis passé, il n'y avait pas encore les secours sur place. Mais il y avait plusieurs véhicules d'arrêtés.
Donc on est vraiment prudent, ça roule comment aux alentours?
Je sais par exemple que Philippe, qu'on a eu tout à l'heure, s'en va vers Marne-la-Vallée. Je sais que Agnès, qui est directrice d'agence immobilière, prendra toujours les voies sur Berge, l'autoroute A4, et ira elle aussi sur Marne-la-Vallée, que Virginie va prendre l'autoroute A15, qu'on a Jacques, qui nous appelait régulièrement, qui maintenant est en vacances, qui prend la Nationale 20 pour redescendre sur Montlhéry. Donc on a des habitués, et on a des gens qui nous appellent de façon cutanée. Ils sont dans une galère, ils ont besoin d'une info, ou alors ils voient qu'il y a une galère dans le sens inverse, ils appellent pour donner l'info, et ça c'est des gens qui viennent à la volée, comme quand on passe devant une pâtisserie, on prend un flan.
RTL et Max Meynier vous disent, les routiers sont sympas. Relax, Max. Salut les artistes.
Des ancêtres, oui, il y a Max Meynier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que le fait de parler, de donner des infos, de faire la route avec les gens, ça fait penser à Max Meynier. Maintenant, s'il y a beaucoup de missions pareilles à l'étranger, je ne sais pas. Peut-être dans les villes comme Mexico où les embouteillages sont énormes. Il y a aux États-Unis des choses qui sont mises en place avec des journalistes qui sont dans les hélicoptères parce que les voies de Los Angeles à San Francisco sont bouchées et puis les gens aux États-Unis, au lieu de faire 50 km, font 250 km, mais pour eux c'est leur quotidien.
Je vous souhaite bonne route jusqu'à ce soir, jusqu'à la maison et bonjour à maman.
Bonjour, au revoir.
Franck Duré, on vient de vous entendre dans cette émission.
C'est un joli résumé, c'est assez drôle d'entendre tout ça d'une seule traite.
Mais c'est une petite famille, en fait, que vous réunissez tous les soirs autour de cette émission.
Oui, c'est une petite famille. On a eu un journaliste qui est venu faire un reportage sur le périphérique et l'histoire du périphérique. C'est un bel exemple, je pense. Il m'a demandé de lui donner le nom d'une auditrice qui prenait, ou d'un auditeur qui prenait le périphérique tous les jours. On avait une dame enceinte, donc la symbolique, elle allait travailler de porte-maillot jusqu'à porte de bagnolet le matin et inverse le retour. Alors pour les gens qui nous écoutent à l'autre bout du monde, ça ne veut rien dire. Ça ne fait traverser Paris d'est en ouest, d'ouest
Paris,
en ouest, à contourner Paris avec le périphérique, qui est cet énorme serpent autour de la ville. Et quand il l'a appelée, elle a parlé de moi, et elle a parlé de l'émission, elle a parlé d'Adrien, comme si on se connaissait depuis 15 ans, parce que on voit l'état des voitures, on parle des bouts de sandwich qui sont encore dans les poches plastiques, les gens qui nous appellent, on connaît les prénoms des enfants, et c'est vrai que c'est sympathique. Je dirais pas une famille, c'est plutôt, on est dans une espèce de grand club où on distribue des cartes, il y a des gens qui passent aussi nous voir dans le studio, c'est une espèce de grand club, c'est open.
Votre émission, elle fait appel à la notion de partage, et beaucoup de gens appellent pour signaler qu'il y a un danger possible avec quelque chose qui est tombé sur la chaussée, etc. Ça veut dire qu'il y a un vrai sens civique qui s'exprime là.
Oui, à croire que tous les bons conducteurs nous écoutent, mais chacun a une partie sombre et peut basculer du côté sombre de la force. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a une solidarité. On a des habitués, comme je disais, un tel prend l'autoroute A15, l'autre prend l'autoroute A6, les grands axes qui amènent sur Paris ou qui nous en font sortir. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des infos qui sont données de façon récurrente et des infos qui sont données, ce que je disais aussi, de façon cutanée, de façon épisodique. Maintenant, est-ce que ce mouvement dure quand on est arrivé chez soi et qu'on pense à son voisin, à sa voisine, d'en dessous, du dessus ou d'en face, je ne sais pas, mais dans leur véhicule en tout cas, pour le moment ça fonctionne. C'est un petit pas pour France Bleu Île-de-France, mais c'est sûrement un grand pas pour la route et pour la relation entre les gens.
L'autre public de l'émission, ce sont les usagers des transports en commun,
oui.
Du métro, du RER par exemple. Ceux-là, comment vous les informez et comment eux ils vous informent?
Alors ma théorie, c'est a priori que les gens nous écoutent surtout avant de partir du bureau ou avant de partir de la maison. Les gens nous écoutent avant de partir, mais on a, c'est très très rare quand il y a des gros coups de bambou, on a des gens qui nous appels du RER. On a une dame, quand il y a eu malheureusement un accident de passager sur la ligne C du RER, qui nous appelait. Elle était dans le RER, dans une zone de réception, elle n'était pas dans un tunnel, qui nous a appelé. Bah, tout le monde a besoin des transports en commun, donc ça peut aller du numéro 2 d'un groupe qui fait de l'industrie, et son chauffeur est au volant, nous appelle parce qu'il a un rendez-vous, il faut qu'il aille à Orly prendre son avion, jusqu'au plombier, au serrurier. Et il y a des mères de famille et des gens retraités qui nous écoutent de chez eux en préparant le dîner le soir, et ça c'est très surprenant parce que je ne vois aucun rapport avec les embouteillages, mais il y a vraiment un affect qui s'est créé.
Merci en tout cas Franck Duré d'être passé nous voir. Votre émission c'est On fait la route ensemble sur France Bleu Île-de-France, tous les soirs de semaine de 18h30 à 21h.
Et c'est 7 jours sur 7 parce qu'on a un collègue qui est là le dimanche aussi et le samedi, et c'est sur le net si les gens veulent nous écouter. Et je tiens à saluer aussi les gens de Yaoundé, parce que quand j'étais là-bas, je me suis fait, on a parlé en préparant l'émission, en revenant de 3 semaines de reportage en brousse, à Ngaoundéré, Marois dans le Nord, je me suis fait arrêter, il y avait pas mal de monde sur la route, et je me suis fait arrêter pour délit de voiture sale. Et ça m'a toujours fait rire, délit de voiture sale, en venant de la brousse.
Bonne route.
Merci en tout cas, c'est très sympa.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Dans l'actu média de la semaine, plusieurs infos ont retenu mon attention. La naissance d'un nouveau site d'information en Espagne, lainformation.com, se veut un nouveau média numérique moderne de qualité et ouvert à tous. Le site a embauché 60 personnes et il ambitionne d'être rapidement dans le trio de tête des sites d'information en langue espagnole. En France, le nouveau site de la chaîne TF1 permet le commentaire en direct de certains événements via Facebook. Premier essai cette semaine avec les demi-finales de la Ligue des Champions. Le système inauguré aux États-Unis pour l'investissement de Barack Obama se répand donc rapidement. Le site de mini-message Twitter continue à faire des adeptes. Le ministère français des Affaires étrangères vient d'y ouvrir un compte, une manière de communiquer en temps réel sur son actualité. Je vous rappelle à cette occasion que l'Atelier des médias est également présent depuis sa création sur Twitter. Pour toutes ces infos, des liens complémentaires sur le site de l'Atelier des médias, émission numéro 80.
L'Atelier RFI, c'est de l'internet et de la radio en même temps.
Atelier@rfi.fr.
Where you get the best of both worlds, real people and virtual people.
Ce sont vraiment les internautes qui font le ton du journal et le ton de l'édition du jour. Les gens souhaitent de plus en plus être acteurs des médias.
Voilà, ça enregistre.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va connaître ?
La presse sur Internet peut-elle être rentable ? Voilà une question qui revient souvent dans l'Atelier des médias. Et c'est sur cette question que vous vous êtes penché, Mathieu Devivi. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes membre de l'Atelier des médias, mais pas seulement. Vous êtes aussi et surtout étudiant. Étudiant où ça ?
À HEC Télécom Paris. En fait, je viens de terminer mon master en décembre. Et donc j'ai cherché du travail et là je viens de trouver un travail.
Bon, ça c'est bien. Et votre sujet de thèse, c'était le suivant. Donc, la presse sur Internet peut-elle être rentable ? Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet ? J'ai vu d'ailleurs que dans les remerciements, à la fin, vous citez l'Atelier des médias.
Oui, tout à fait. En fait, je remercie tous les blogs et les réseaux participatifs que j'ai lus au cours de mes recherches, ainsi que les mémoires et les livres que j'ai pu lire.
Comment vous avez fait ? C'est du travail en ligne uniquement ou vous avez rencontré également des acteurs de ce monde de la presse en ligne ?
En fait, comme je viens d'un secteur totalement différent, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique à la base. J'avais peu d'informations au début sur ce sujet, même si je suis passionné par l'information, je suis un gros consommateur d'informations en ligne. Donc j'ai commencé en fait par naviguer de lien en lien sur Internet, par mes recherches. J'ai d'abord repéré des blogs très intéressants qui parlaient du sujet et j'ai commencé ma veille par là. Et à la suite des informations que j'ai pu récolter au niveau économique ou au niveau participation, j'ai demandé en fait à des acteurs reconnus de m'indiquer comment eux ils percevaient l'évolution de la presse en ligne.
Vous avez eu une bonne note ?
Oui, j'ai une bonne note. Ouais.
Donc ça veut dire que on peut travailler sur Internet aujourd'hui. Est-ce qu'on peut d'ailleurs, quand on est étudiant, quand on fait ce type de recherche, travailler aujourd'hui sans Internet ?
Je pense que c'est vraiment très très difficile parce que la plus grosse partie des informations se trouve aujourd'hui sur Internet. Et se retrouve pas forcément dans les livres, puisque c'est un secteur en plus qui évolue perpétuellement, où il y a la part d'innovation est vraiment très très importante. Donc toutes ces nouvelles informations en fait se retrouvent sur Internet.
Alors on va revenir à la question centrale de votre mémoire. La presse sur Internet peut-elle être rentable ? Oui, non ?
Joker, évidemment. Bon, bah en fait, si j'avais la réponse à cette question, je pense que j'aurais pas fait ce mémoire.
Vous auriez beaucoup de clients là aujourd'hui. Hein.
J'aurais beaucoup de clients, j'aurais pas fait ce mémoire aussi. Et donc, non, j'ai tâché en fait de trouver des pistes ou des bonnes méthodes en fait qui pourraient aider la presse ou l'information plutôt à évoluer sur Internet, à dégager en fait quelle pourrait être l'information du futur, puisque la presse papier aujourd'hui va mal, traverse une crise structurelle et risque d'y avoir un fort rétrécissement du nombre de journalistes sur la presse papier.
Alors, votre thèse, vous l'avez mise en ligne. On la propose d'ailleurs sur le site de l'Atelier des médias. Ceux qui sont intéressés peuvent la consulter, la lire, voire même l'imprimer. Et Bertrand Cogoé, qui est membre de l'Atelier des médias, qui a lu votre thèse ou qui l'a parcouru rapidement, parce que je ne sais pas s'il a eu en quelques jours le temps de le lire, c'est quand même assez épais, assez copieux. Il vous demande si, d'après vous, la rentabilité de la presse passe maintenant par le développement de nouveaux dispositifs, comme le livre électronique ou encore les applications pour iPhone, qui permettraient aux producteurs d'informations d'être rémunéré, contrairement au web qui, lui, on a pris l'habitude que l'information soit gratuite sur le web. Ça vous semble être une voie d'avenir ou des voies d'avenir ?
Je pense que ça pourrait être une des voies d'avenir. Quant à savoir si ça pourrait être la solution, à vrai dire, ça m'étonnerait parce que je ne pense pas que les internautes soient prêts à payer pour l'information sur leur iPhone ou sur leur Kindle, par exemple, qu'ils peuvent avoir gratuitement sur Internet.
Alors, le Kindle, c'est le livre électronique développé par la firme Amazon qui permet de lire ses livres sur une petite tablette qui tient pas tout à fait dans la poche, mais qui est pas très grande.
Oui, tout à fait.
Donc, vous disiez que aujourd'hui, on n'est pas prêt à payer pour de l'information dans la mesure où elle est accessible gratuitement sur Internet.
En fait, pour l'information généraliste, je pense qu'en l'occurrence, on n'est pas prêt à payer, ou il n'y a pas assez de personnes prêtes à payer pour rendre cette information rentable. Après, pour tout ce qui est information spécialisée, comme l'information économique, là, il y a une demande de personnes qui ont justement assez pour rendre cette information rentable.
Mathieu Devivi, merci d'être passé nous voir. Je précise que donc vous avez mis votre thèse gratuitement en ligne et qu'on peut la consulter notamment sur le site de l'Atelier des médias. Et puis, on peut vous contacter également sur l'Atelier des médias pour prolonger la conversation.
Pourquoi aujourd'hui les modes de consommation de l'information ont évolué et comment la presse écrite doit s'adapter à ces nouveaux défis ?
Atelier des médias.
Atelier@rfi.fr.
Le déluge de communication que nous avons a tendance à étouffer un peu l'information.
Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin des journalistes, on n'a jamais eu autant besoin d'informations et de médias qu'aujourd'hui.
Internet, c'est ça qui m'a rapproché du journalisme.
Vous serez bientôt 3200 inscrits sur le site de l'Atelier des médias. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est facile de s'inscrire et c'est gratuit en plus. Et vous pourrez notamment participer à la nouvelle enquête participative que lance Anne-Laure Marie. Je vous en donne le titre, Afrique, deuxième vie ou dépotoir pour les ordinateurs d'occasion. Anne-Laure attend vos contributions, vos témoignages et vos réflexions. Je vous signale également ce concours lancé par une ONG néerlandaise à destination des journalistes du continent africain en prévision de la Coupe du Monde de football l'an prochain. Jens Kischeyer de l'organisation 2010 nous en dit plus.
2010, c'est un projet qui s'inspire de la Coupe du Monde 2010 qui aura lieu en Afrique du Sud pour la première fois sur le continent africain, où nous allons inviter des journalistes africains à passer des ateliers pour apprendre mieux leur métier de journaliste et pour les envoyer plus tard à la Coupe mondiale même en 2010 en Afrique du Sud.
Si on veut participer à ce programme, il faut s'inscrire. Comment est-ce qu'on fait ?
D'abord, il faut être africain, de nationalité africaine. Il faut vivre et travailler sur le continent africain. Il faut qu'on soit photographe, soit journaliste radio, soit journaliste dans la presse écrite. Et on peut envoyer sa candidature via Internet sur notre site web africamedia-allstars.net. Et un jury indépendant va alors choisir les 108 candidats qui pourront profiter des stages qu'on va organiser entre septembre et novembre au moment des Jeux éliminatoires pour la Coupe du Monde.
Merci Jens, on retrouvera l'adresse du site sur lequel on peut se porter candidat pour ce projet 2010 sur le site de l'Atelier des médias. Merci.
Merci.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
L'Atelier des médias, deuxième partie, ce sera tout de suite après les infos de la demi, direction le Cambodge, où le site d'information Cassette tente de se frayer une voie entre pression politique et autocensure.
En fait, l'histoire, c'est que nous, on était journalistes à Cambodge, mais en juin 2007, il y avait une crise au sein de la rédaction. Un journaliste de Cambodge a été limogé sans raison. Nous réclamons l'indépendance éditoriale.
Ce ne serait pas plus facile ici de, je sais pas moi, de parler de la mode, par exemple, ou de voitures, ou de choses comme ça, parce que vous choisissez des sujets difficiles, là, les droits de l'homme, la politique.
Parfois, moi, j'ai du mal quand même donc, à collecter des informations auprès des autorités. Moi, je reconnais ça. Mais en tant que journaliste, nous, il faut faire des efforts, parce que Cassette, ça donne aux lecteurs quelque chose de sérieux.
Médias du monde.
Un reportage de Stéphane Lagarde à écouter dans 4 minutes avec les réponses de notre reporter aux questions que vous lui avez posées.
Please record your message after the tone.
RFI.